Ça fait 2 ans, jour pour jour, le 6 mars, que le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été relevé de ses fonctions par la ministre responsable de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbeault. Il a été payé depuis son plein salaire, donc suspension avec solde, 500 000 $ au total, parce que le salaire annuel est à peu près, tourne autour de 250 000 $ par année, donc, et à demeurer chez lui à ne rien faire. On dit même que M. Prudhomme s'est offert, justement, pour donner un coup de main pendant la pandémie. Il a écrit une lettre et on lui a jamais répondu.
Et on l'accuse de rien, là.
Non.
Attention, on l'accuse de rien.
Non seulement
c'est
ça.
C'est incompréhensible. Il y a juste ici que ça arrive, des affaires comme ça.
Et ça donne encore un dossier plus épais. On va demander d'ailleurs à Daniel de nous faire, dans quelques minutes, un espèce de résumé de ces 2 dernières années, parce que ça implique le DPCP, l'UPAC. Rappelez-vous la spectaculaire arrestation du député Guy Ouellette et tout ce qui entourait l'enquête dite « mâchurée ». On a l'impression que c'est perdu dans des détails, dans des dédales, devrais-je dire, et qu'il n'y aura jamais d'issue à ça. On est avec un directeur par intérim à la Sûreté, ou directrice par intérim à la Sûreté du Québec, du côté du DPCP. Comment se fait-il que 2 ans plus tard, la situation n'est pas plus évoluée? Alors, Daniel Renaud, dans quelques instants. À venir, nous allons parler de la reprise économique spectaculaire qui s'annonce aux États-Unis. Les Américains, pour la première fois depuis 1 an, et ça, c'est un cliché, vraiment, voient la lumière au bout du tunnel dans cette pandémie. C'était le 11 mars qu'on a déclaré du côté de l'Organisation mondiale de la santé officiellement le terme « pandémie ». Mais sur des choses, des considérations dans l'actualité beaucoup plus légères ce matin, on apprend dans le Journal de Montréal que la coupe Longueuil revient à la mode. Est-ce par nécessité, par l'absence de nos salons de coiffure pendant trop longtemps, ou si des gens veulent marquer un point? Martin Lemay, notre jeune collègue des sports, nous a dit « Je l'ai porté, malheureusement, 3 ans trop tard ».
Exact.
Et ça, il n'y a rien de pire que d'être déphasé par rapport à son époque, Martin. Tu as dû te faire traiter de tous les noms, dire « Hey, coupe Longueuil! » Non?
Ouais, j'étais hâte, mais j'étais chanceux. Je mesurais 6 pieds 2 très tôt dans ma vie. Fait que, d'après moi, les choses se sont mieux passées que si j'avais été... Mais pas, il y a pire. Il y a vraiment pire qu'avoir la coupe Longueuil.
Tu as eu d'autres choses?
Ah. Écoute, vous avez remarqué que j'ai pas souvent les cheveux dans le visage. J'ai comme une rosette en plein milieu du front. Et pour ma mère, j'étais comme possédé du diable. Elle m'appelait le petit cornu, tout ça. Fait qu'elle m'amenait, elle m'a dit au barbier, parce que dans ce temps-là, c'était un barbier. On allait chez Gilles, le barbier. Elle a dit, faut que tu fasses quelque chose. Fait qu'ils m'ont amené dans une classe de coiffeur où, assis sur une chaise, avec le petit banc là, pour me booster parce que j'étais tout petit, il y avait, mettons, 8-9 coiffeurs enseignants qui me regardaient à la tête en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ils ont eu la bonne idée de raser les côtés de ma tête et de me faire une permanente.
Oh.
Écoute, la honte de ma vie, la boule que j'ai eue sur le dessus de la tête, la permanente, c'était du dégueulasse. C'était honte, Paul. J'étais, et je peux te dire que depuis l'âge de 16 ans, je n'ai jamais mis un peigne dans ses beaux cheveux parce que, de toute façon, visiblement, ça ne donnera rien. Et aux 5 ans, je constate que je reviens à mode.
Et avoue-le, ça t'a marqué.
Ah, marqué, tu dis. Je veux voir encore la face de ces personnes-là autour de moi, là, puis qui me promènent le cheveu d'un gauche à droite. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comme si j'étais pris de la peste, puis qu'on savait pas quoi faire pour me traiter. C'était tout simplement abominable.
Mais regarde, Thérèse, il y a eu des variants. On parle pas de virus ce matin, mais c'est vraiment ça. Il y a eu des variants de la coupe Longueuil dans différentes régions du Québec.
Ah oui, il y en a eu dans différentes régions. Puis, par exemple, on dit qu'à Québec, ici, on appelait ça la coupe Longueuil. À Montréal, on appelait ça la coupe Longueuil. À Longueuil, on appelait ça la coupe Longueuil. Mm-hmm. À Gatineau, on appelait ça la coupe Gatineau.
La coupe Gatineau. Ouais, il y a eu une coupe Gatineau.
Gatineau, okay. Semble... Écoute, à Québec, ça s'appelait la coupe Vanier.
Oui, ben oui.
Mais attends... À la blague, évidemment, mais pour vrai, il paraît qu'on a appelé ça vraiment la coupe Vanier. Tu sais, ça vient d'un quartier, des fois, où les gens ont commencé à porter dans un quartier. Puis, on parle de la coupe Longueuil. Rappelez-vous, au dernier gala de la disque, Louis-José Houde Rappelez-vous comment on a jasé de cette coupe
ouais,
qu'il avait,
ouais.
les cheveux un peu longués ouais, dans
ouais,
le cou.
Oui, oui, oui.
Alors, il y a quelqu'un qui dit « Plus longueuil que ça, tu meurs. »
Ah.
Hein, ça ressemblait à ça un peu, donc faut croire qu'il était très à la mode. Il était avant-gardiste, puisque ça revient à la mode. Il y a un de nos auditeurs qui nous a écrit... à la suite de l'appel de celui qui se prétendait l'inventeur de la coupe Longueuil parce qu'il avait voulu enfiler ses cheveux sous son casque.
Le cheminot, celui qui travaillait sur
oui.
les chemins de fer, il dit « J'ai été le premier à porter ça » et il y, a, ouais. il y a eu énormément de gens qui ont réagi en
Exactement.
disant « Voyons donc ».
Il y a quelqu'un qui a dit hey, « Inventeur, ouais, mon œil, en 77, ben je portais ça à la Baie James.
» À la Baie James?
À la Baie James, je travaillais à la Baie James. À un moment donné, il y a Van qui nous dit, on a appelé ça la coupe Longueuil parce qu'il en restait plein à Longueuil alors que ça se voyait plus à Montréal, c'était plus à mode.
Ah bon, c'est pour ça qu'il disait
ouais,
ça.
Ouais. La coupe Longueuil, donc, semble-t-il, ça pourrait être une déformation de la coupe Longuette. Longuette dans l'œil.
Oui, ça se peut.
Il
ouais.
y a quelqu'un qui nous dit aussi, vous oubliez la coupe Longueuil inversée, Paul.
Oui.
Parce qu'effectivement... Ouais. Très court partout, avec un long toupet. Et rappelle-toi, Denis, qui travaille évidemment aux nouvelles ici.
Stéphane, ouais.
nous a dit tantôt...
Il a porté ça, lui.
Il a porté ça, lui, ce long toupet.
De Cure.
Lepage a porté ça.
Ça, c'était la mode de Cure.
Ouais.
Qui avait, rappelez-vous, un groupe qui a eu un succès là, quand même énorme dans les années 80, Spandau Ballet. Spandau
oui.
Ballet. Et puis, le chanteur avait ça, une immense
chevelue ouais.
à l'avant.
À l'avant.
Mais très court derrière.
Très court derrière. Ah. Il y a quelqu'un de nos auditeurs qui nous dit, moi j'en ai une naturellement depuis un petit bout, c'est que ça pousse pas mal moins vite sur le dessus de la tête que ça pousse vite dans la nuque.
C'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui malheureusement, surtout des auditeurs qui ont dit, on a perdu quelques cheveux pour refaire
ouais.
la coupe Longueuil. J'ai ce commentaire en terminant, Thérèse, un
oui.
commentaire très pertinent ici. D'un auditeur qui nous dit que si la coupe Longueuil revient à Montréal, c'est parce que c'est le seul espoir de revoir une coupe à Montréal.
Oh.
Martin, c'est cruel, ça.
Ben, c'est un peu vrai.
Et notre auditeur nous dit, si la coupe Longueuil revient, c'est parce qu'on n'est pas capable d'en gagner d'autres.
C'est pas complètement
Parfait.
Fou.
Alors, merci, continuez de nous écrire. 98985, comment vos cheveux, votre, comment on dit... votre apparence capillaire a changé depuis un an de pandémie.
Ouais.
Un an, le 11, là, on est le 6 aujourd'hui. Est-ce que nous allons tout de suite, ben oui, en parlant d'anniversaire. Il y a 2 ans, jour pour jour, non sans étonnement, le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, était relevé de ses fonctions. Il est, depuis 2 ans, payé 500 000 $ si on tient compte de son salaire annuel de 250 000 $ à rester chez lui, à ne rien faire. Daniel Renault de La Presse est avec nous. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour, Paul.
Est-ce qu'on pensait et est-ce que vous pensiez, Daniel, que ça allait durer aussi longtemps sans qu'il n'y ait une évolution de la situation?
Bien, je vais répondre franchement, Paul, oui, parce que maintenant, le dossier est judiciarisé en ce sens où l'année dernière, à l'automne 2020, eh bien, Martin Prudhomme a déposé une poursuite au civil contre le procureur général du Québec. Il demande dans cette poursuite aucun montant d'argent, du moins pour le moment, là, mais je ne serais pas surpris qu'éventuellement ça finisse de cette façon-là, mais il demande à ce que son verdict, là, j'ai pas nécessairement le bon mot, mais que son verdict de destitution qui avait été prononcé après qu'un comité de 3 sages eut évalué son dossier, un comité du secrétariat des emplois supérieurs. Donc, il demande à casser sa destitution et il demande également à ce que le fameux appel qu'il avait fait avec la directrice du DPCP, Maître Annick Murphy, ne soit pas considéré comme une faute grave. Mais je ne sais pas, Paul, peut-être qu'on devrait faire une chronologie des événements.
Oui, ça vaudrait la peine parce que ça remonte à plus que 2 ans, là.
Oui, puis les gens se perdent un peu dans tout ça, puis je les comprends, là. Je vous dis, franchement, à chaque fois que j'écris un article sur le sujet, je suis toujours obligé de prendre plusieurs paragraphes là, pour expliquer le contexte. Rappelez-vous, on retourne en 2017, il y a eu des fuites sensible de documents d'enquête de l'UPAC, le projet Mâchuré, qui porte sur le financement du Parti libéral du Québec. Et là, le commissaire de l'époque de l'UPAC, Robert Lafrenière, est en furie devant une commission parlementaire. Il dit « On va coincer le bandit qui a fait ça. » Et à ce moment-là, il y a une enquête interne qui commence au sein de l'UPAC, qui est faite par une équipe limitée d'enquêteurs. Pourquoi? Parce que l'une des cibles principales de cette enquête-là sur les fuites est Guy Ouellet, qui a énormément de contacts partout en politique et dans la police.
Alors, on est à peu près là, il y a 4 ans, en septembre.
On est en 2017.
Septembre 2017, et ça allait conduire à cette arrestation spectaculaire du député Guy Ouellet.
Oui, mais on n'est pas encore rendu là, Paul.
Okay.
Guy Ouellet est un grand ami de Martin Prudhomme. Martin Prudhomme sait, par son beau-père, Robert Lafrenière, que Guy Ouellet fait l'objet d'une enquête. Parce que l'UPAC a d'abord demandé à la Sûreté du Québec de faire l'enquête sur les fuites. La SQ a refusé. Donc, l'enquête reste au niveau de l'UPAC. Et à ce moment-là, Martin Prudhomme apprend, en fait, j'ai dit par Robert Lafrenière qu'il apprend l'enquête, c'est pas tout à fait vrai, c'est par un de ses DGA qu'il apprend que Guy Ouellet fait l'objet d'une enquête, mais Guy Ouellet continue à avoir des contacts avec Martin Prudhomme. Et là, ça crée une situation qui, semble-t-il, des procureurs commencent à se poser des questions sur la probité de Martin Prudhomme dans tout ça, qui pourrait peut-être éventer l'enquête. Martin Prudhomme apprend ça, il n'est pas content, il prend le téléphone en octobre 2017 et le 24 octobre, et il appelle la grande patronne du DPCP, Annick Murphy, et celle-ci se sent alors intimidée. Et ça reste comme ça, Paul, pendant plusieurs mois. Mais là arrive l'arrestation de Guy Ouellet, finalement tout ça vire en queue de poisson. Le gouvernement demande au Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, d'enquêter sur la façon dont l'UPAC a mené l'enquête qui a débouché sur l'arrestation de Guy Ouellet et également d'enquêter sur les fuites à l'UPAC. Le BEI déclenche une enquête qui s'appelle Serment. C'est à ce moment-là que Maître Murphy dépose une plainte contre Martin Prudhomme, visiblement pour des allégations d'entrave et d'abus de confiance. Et c'est à ce moment-là que Martin Prudhomme est relevé de ses fonctions en mars 2019, en mars il y a 2 ans.
Exactement, 2 ans, jour pour jour, par ministre responsable de la Sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Et là, Mme Murphy n'est plus au DPCP, ce qui fait qu'on se retrouve avec des intérims, Daniel Renault, au moment où on se parle, à la Sûreté du Québec et au DPCP.
Oui, exactement. À la Sûreté du Québec, depuis que Martin Prudhomme a été relevé de ses fonctions, c'est Joanne Beausoleil qui est là par intérim. Et actuellement, je ne veux pas me tromper, là, mais c'est probablement le directeur adjoint du DPCP, Maître Martin Beau, qui pour le moment occupe le poste, mais il y a un processus là pour trouver un nouveau directeur du DPCP qui est en cours. Mais c'est important, Paul.
Oui.
Ben, il y a un an, en mars 2020, Martin Prudhomme, qui est chez lui, parce qu'on ne peut pas affecter le directeur général de la Sûreté du Québec à d'autres tâches. Et il est le plus haut dans la hiérarchie. Donc, il est envoyé avec traitement chez lui. Mais il y a un an, son avocat envoie une lettre à la ministre Guilbeault. Il veut réintégrer ses fonctions parce que, à l'aube de la pandémie de la COVID-19 et aussi dans un contexte où il pourrait y avoir des inondations, il offre ses services, il offre de revenir, mais ça demeure lettre morte. Mais c'est important, Paul, c'est que dans les jours suivants, Martin Prudhomme est blanchi de toute allégation, mais il n'est toujours pas réintégré parce que le gouvernement confie la mission, en fait, le secrétariat des emplois supérieurs, parce que le poste de directeur général de la Sûreté du Québec relève du secrétariat des emplois supérieurs, met sur pied un comité de 3 juristes pour décider si Martin Prudhomme a commis une faute grave. Mais ça, ce mécanisme-là, Paul, n'est pas prévu dans la loi. Donc, les 3 juristes se concertent, rencontrent Martin Prudhomme, qui dit avoir fait un monologue durant 4 heures, et finalement, au bout de l'exercice, il considère qu'il a commis une faute grave et recommande sa destitution. Et là, la ministre Guilbeault annonce la conclusion du comité et annonce que maintenant, ça sera la commission de la fonction publique qui va se pencher sur le dossier. Sauf que Martin Prudhomme, lui, dit « c'est assez, je participe pas à ça » et il se retire. Et ce qu'il fait, c'est qu'il dépose une poursuite, en fait une action en cour supérieure, chambre civile.
Alors, on en est là. En ce 6 mars 2021, Martin Prudhomme, ex-directeur de la Sûreté du Québec, là, il faut bien comprendre son statut, est toujours suspendu avec solde.
Oui, exactement. Et il attend chez lui la suite des choses. Parce que Martin Prudhomme, c'est intéressant aussi, Paul, la raison pour laquelle il a été relevé de ses fonctions, oui, il y a eu la plainte de Maître Murphy, mais tout ça se retrouvait dans un tout, qui est la fameuse enquête du BEI sur les fuites, le projet Serment. Paul, le projet Serment, ça fait plus de 2 ans que ça dure, et en janvier dernier, un enquêteur du projet Serment a dit que l'enquête pourrait durer encore 2 ans. Martin Prudhomme, Prudhomme est blanchi. Oui, il est blanchi dans l'enquête.
Ben oui.
Mais il y a encore d'autres policiers de la Sûreté du Québec qui, eux, sont ciblés dans l'enquête Serment. Je pense à l'inspecteur André Boulanger, à la lieutenante Caroline Grenier-Lafontaine, qui sont également, ils se sont placés en maladie, mais ils sont chez eux à attendre la suite de l'enquête, payé également, et Paul, je ne sais pas si un jour on va connaître la vérité sur tout ça, et je me demande sérieusement quelle sera la conclusion de tout ça.
Alors, en attendant, c'est encore le contribuable québécois qui doit assister sans avoir de réponse, Daniel, à cette espèce de dédale qui va, comme vous l'avez dit, de l'enquête Serment à l'origine, l'enquête Machuré de l'UPAC et tout ça. Donc, on est perdu, là. Vous l'avez bien résumé, mais même à ça, c'est complexe et la situation évolue à la vitesse du glacier, là, en ce moment. Quand vous nous dites que ça fait 2 ans que Serment a commencé, il reste encore 2 ans. Peut-être que, comme vous le dites, nous n'aurons jamais de réponse.
Moi, c'est ce que je crains. Et vous savez, ce que je crains aussi, Paul, c'est le désintéressement des gens. Pourtant, c'est extrêmement important ce qui s'est passé. On a quand même eu un député qui a été arrêté, jamais accusé. On a quand même eu des documents sensibles d'une enquête qui ont été exposés dans les médias. Et cette enquête-là, finalement, visiblement, ne connaîtra probablement jamais son aboutissement.
Vous avez un directeur de notre police nationale qui est suspendu avec solde. Vous avez l'implication d'une ex-directrice du DPCP. Ça fait beaucoup de choses, là.
Ben, c'est District 31, probablement la prochaine saison, mais Paul aussi. Également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute cette affaire-là et l'enquête Serment du BEI a joué un rôle majeur dans l'arrêt des procédures dont a bénéficié l'ex-première ministre Nathalie Normandeau.
C'est vrai.
Et ses co-accusés. Je ne suis pas en train de dire que Mme Normandeau était coupable ou quoi que ce soit, mais je dis qu'elle a bénéficié, elle et ses co-accusés, ils ont bénéficié d'un arrêt des procédures en grande partie avec comme contexte toute cette enquête-là, Serment. Et moi, je vous le dis, Paul, j'ai fermement l'intention de continuer à suivre ce dossier-là.
Oui.
Et j'espère que les gens aussi vont continuer à s'intéresser à ça, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, on sache la vérité, on sache ce qui s'est passé.
Monsieur Renaud, je suis très, très contente que vous le mentionniez. C'est-à-dire de préciser que c'est extrêmement important qu'on sache le fond de cette histoire-là pour comprendre ce qui est arrivé.
Et le problème, le problème, Thérèse et Daniel, c'est que, qu'est-ce que vous voulez, on a tout enfoui sous le tapis depuis 1 an. Mais ce dossier-là, il est extrêmement important. Qu'est-ce que vous voulez? Avec la polarisation autour de la gestion de la pandémie et de la COVID, ben, ce sont des dossiers qui remontent là, qui commencent à remonter à la surface.
Oui, puis Paul, moi je peux vous dire, je vous ai parlé tout à l'heure de 2 policiers, André Boulanger et Caroline Grenier-Lafontaine, qui sont des policiers de la Sûreté du Québec qui avaient été prêtés à l'UPAC Et ce sont eux qui étaient responsables de l'enquête qui a débouché sur l'arrestation de Guy Ouellet en 2017. Moi, je peux vous dire que ces gens-là s'apprêtent maintenant à contre-attaquer devant les tribunaux et on pourrait avoir d'autres rebondissements éventuellement.
Merci beaucoup, Daniel. Et on continue et on peut aller vous lire, d'ailleurs, sur le site de La Presse aujourd'hui. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir. Bonne journée.
Daniel Renaud de La Presse. Dans quelques instants, nous allons parler de ces images incroyables. J'ai dit incroyables parce que elles sont d'une définition telle qu'on n'a jamais vu la surface d'une autre planète, en l'occurrence la planète Mars. Et nous allons parler donc des premiers mouvements du robot Persévérance.